Les élus du Congrès doivent donner aujourd'hui leur avis sur la tenue de la consultation anticipée des Calédoniens sur l'accord de Bougival, séance prévue à 14h. Une séance à laquelle Philippe Gomès, Philippe Michel et Jacques Lallier ne pourront pas participer. Le Conseil d'État a confirmé leur peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire prononcée par la justice. Elle a ébloui le jury et les spectateurs du concours de Miss France. Vous entendrez Juliette Collet, devenue première dauphine de Miss France 2026. En métropole, le groupe d'ultra-gauche écologiste Les Soulèvements de la Terre refait parler de lui. Il a projeté des messages anti-police et anti-RN pendant la fête des Lumières à Lyon. Et puis la sécurité du Louvre encore en question. Une inondation a endommagé près de 400 ouvrages situés dans la bibliothèque du département des Antiquités égyptiennes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se prolongera par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Nous parlerons Formule 1, c'était le dénouement de la saison ce week-end.
Et tout s'est bien joué lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Lando Norris a enfin pu savourer son sacre de champion du monde 2025. Le pilote McLaren a fait la course qu'il fallait, appliquée pour se classer derrière Max Verstappen et Oscar Piastri, la place qu'il fallait pour finir en tête du championnat du monde et détrôner Max Verstappen. Un premier sacre mondial pour Lando Norris à l'âge de seulement 26 ans.
Natation et Maxime Grousset qui a encore accumulé de très bons résultats.
Il termine les championnats d'Europe de natation en petit bassin avec un total de 6 médailles. Il a encore décroché l'argent sur le 50 mètres nage libre aujourd'hui en individuel. Puis il a participé dans la matinée au relais 4x50 avec l'équipe de France, encore deuxième. Le Calédonien part de Pologne avec notamment les titres continentaux sur le 100 mètres nage libre et le 100 mètres papillon.
Maxime Grousset distingué par le CTOS.
Ouais, lors des trophées du sport, c'était vendredi soir. Une occasion de saluer l'ensemble des acteurs du sport calédonien, meilleur athlète, meilleur master, meilleur événement, meilleur bénévole, encadrant de l'année. Une soirée pour conclure donc cette année de reprise des compétitions, alors que 2024 avait été largement perturbé. Nous reviendrons sur le palmarès, le bilan également de l'année sportive, avec le président du CTOS, Christophe Dabin.
Une séance publique décisive au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Les élus sont convoqués à 14h pour émettre un avis sur le projet de loi organisant une consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'un avis purement consultatif, mais la consultation anticipée sur l'accord du Bougival est loin de faire l'unanimité et cette séance se déroulera sous haute tension. Le haut-commissaire interdit le sit-in que le FLNKS voulait organiser devant le Congrès, Nicolas Legrand.
Oui, le rassemblement avait été annoncé hier par voie de communiqué. Le nouveau FLNKS voulait réaffirmer son opposition à Bougival alors que les élus du Congrès doivent rendre leur avis sur la consultation citoyenne concernant l'accord de Bougival. Le haut-commissaire Jacques Billon a donc pris un arrêté pour interdire les rassemblements et manifestations du FLNKS aujourd'hui à Nouméa, car cette mobilisation sur la voie publique n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'État dans le délai réglementaire d'au moins 3 jours. Pour justifier cet arrêté, l'État évoque aussi les récents appels à la mobilisation lancés par la CCAT qui portent sur le rejet du projet d'accord de Bougival et sur le refus du report des élections provinciales. Il déclare aussi que les attroupements peuvent engendrer un risque de trouble à l'ordre public et sont de nature à mettre une pression sur les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Pas de sit-in du FLNKS, c'est un hémicycle légèrement recomposé pour cette séance publique. Le Congrès tire les conséquences des décisions du Conseil d'État qui a rejeté les recours formés par Jacques Lallier, Philippe Gomès et Philippe Michel. Elisabeth Noir.
Les trois élus sont frappés de peine d'inéligibilité et ils avaient formé des recours contre les arrêtés du haut-commissaire qui les avait déclarés démissionnaires d'office de leur mandat. Le Congrès tire donc effectivement les conséquences de ces condamnations qui sont désormais pleinement exécutoires. L'ancien président de la province des îles, Jacques Lallier, a été condamné à 2 ans d'inéligibilité pour favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Les deux élus de Calédonie ensemble, Philippe Gomès et Philippe Michel, sont condamnés à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs. Et à chaque fois, ces peines avaient été prononcées avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elles doivent s'appliquer immédiatement. Vendredi, le Conseil d'État a rejeté leur recours. Les peines d'inéligibilité sont donc effectives. Dans son communiqué, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie tient à préciser qu'il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et qu'il ne fait qu'appliquer strictement le droit en vigueur, mais qu'il doit procéder immédiatement au remplacement des conseillers concernés au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. En conséquence, à partir du 6 décembre, Jacques Lallier est remplacé par Reine Vendégou-Hué. Philippe Gomès est remplacé par Nina Julier. Et Philippe Michel est remplacé par Jean Caïs, 3 nouveaux élus qui vont siéger dès cet après-midi dans l'hémicycle du boulevard Vauban pour émettre un avis sur le projet de loi organisant la consultation des Calédoniens sur l'accord de Bougival.
Philippe Gomès avait pris acte dès hier soir sur sa page Facebook de l'exécution de cette peine d'inéligibilité.
Il indique qu'il aura siégé 13 696 jours au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il a été élu pour la première fois le 24 avril 88. Et il dit regretter que cette décision intervienne la veille de l'avis que le Congrès doit donner sur la consultation citoyenne anticipée concernant Bougival, parce qu'il aurait eu, écrit-il, deux ou trois choses à dire. Mais il précise que c'est Philippe Dunoyer qui le fera au nom du groupe Calédonie Ensemble. Philippe Gomès ajoute que pour l'instant, le fait de ne plus être élu n'enlèvera rien à son action au sein de Calédonie Ensemble jusqu'aux prochaines élections provinciales et que de la même manière, il restera investi jusqu'en juin 2026 en qualité de signataire de Bougival. Alors on sait que le remplacement au Congrès de Philippe Gomès et de Philippe Michel a des conséquences sur la composition des groupes politiques qui doivent être composés d'au moins 6 élus. Philippe Gomès est remplacé par Nina Julier qui a quitté Calédonie Ensemble pour fonder Génération NC avec Nicolas Metzdorf. Elle ne siégera donc pas sur les bancs de Calédonie Ensemble qui perd ainsi son groupe au Congrès. Mais il se dit que les élus de Calédonie Ensemble et ceux de l'Éveil océanien qui siègent actuellement en non-inscrit pourraient se regrouper pour constituer un intergroupe commun.
Philippe Gomès et Philippe Michel perdent également leur mandat de conseiller de la province sud. Ils seront remplacés là aussi par les suivants de liste. Ce sont Martine Lagneau et Pierre Ferbanque qui devraient leur succéder. Les loyalistes aussi prennent acte de cette recomposition. Ils confirment que Nina Julier fait son entrée au Congrès et rejoint le groupe Les Loyalistes une semaine après Anice Etatoufélé. Les loyalistes indiquent que s'ils se renforcent et qu'ils deviennent la première force politique du Congrès, la Nouvelle-Calédonie à égalité avec l'UCFLNKS et Nationaliste, avec 13 membres. Ils en profitent pour réaffirmer leur engagement à agir dans le dialogue et avec détermination pour bâtir un avenir sûr, stable et partagé pour tous les Calédoniens. Fin de citation. Alors en attendant, Elisabeth, que faut-il attendre de la séance publique de 14h? Quel avis le Congrès va-t-il émettre?
Eh bien, pour l'instant, personne ne le sait vraiment. Mais si l'on se base sur la réunion de la commission qui avait examiné ce projet de loi, on peut penser que les loyalistes et le rassemblement émettront un avis favorable sur le texte. Il représente aujourd'hui 19 voix. Le groupe UCFLNKS, s'il vient siéger, votera contre. L'UNI et les élus Calédonie Ensemble et Éveil océanien devraient s'abstenir. Pardon. Dans ce cas, l'avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sera réputé favorable. Mais cela ne cachera pas les profondes réserves qui existent sur l'organisation de la consultation citoyenne et plus globalement sur l'accord de Bougival. On sait par ailleurs que le Parti socialiste est désormais opposé à cette consultation anticipée. La France insoumise aussi par soutien au FLNKS. Quant au Rassemblement national qui pourrait faire pencher la balance, on sait qu'il a de fortes réserves sur le processus de Bougival. Il risque donc, quel que soit l'avis du Congrès, de ne pas y avoir de majorité nationale pour soutenir l'organisation de cette consultation, alors que le projet de loi doit être examiné le 17 décembre en Conseil des ministres pour être soumis au Parlement dès le mois de janvier.
Et toujours dans l'actualité politique, le Conseil d'État annule l'élection de Mathias Ouanneux à la présidence de la province des Îles. Jacques Lallier avait demandé son annulation au motif qu'elle avait lieu le 27 décembre 2024, alors qu'elle n'aurait pas dû se tenir avant la décision concernant un recours de l'ancien président de la province des Îles. Jacques Lallier avait en effet attaqué la décision du haut-commissaire de le démettre de ses fonctions après la peine de 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire prononcée à son encontre dans l'affaire du délit de favoritisme lors du renouvellement du parc informatique de la province des Îles. C'était le 9 septembre de l'an dernier. L'élection du nouvel exécutif n'aurait donc pas dû se tenir avant la décision du tribunal administratif sur ce recours. Selon nos informations, l'Assemblée de la province des Îles devrait se réunir dans la semaine pour renouveler son bureau et donc son président. C'est donc une semaine politique dense qui commence et qui succède à une semaine politique particulièrement intense. On retrouve justement la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Et quelle semaine ! Elle aura débuté par l'arrivée en catimini des facilitateurs. Thierry Lataste, Rémi Bastier et Benoît Lombrière devaient consolider l'accord de Bougival en levant les ambiguïtés sur le texte et en apportant les éclaircissements et les ajustements nécessaires pour parvenir avec l'ensemble des partenaires à un accord consensuel sur l'avenir du territoire. Ils sont repartis en catimini aussi et on peut penser qu'ils n'auront rempli aucun de leurs objectifs tant la situation est complexe et bloquée. Sur les 6 groupes signataires de l'accord du 12 juillet, seuls les loyalistes et le rassemblement réclament le respect de l'esprit et de la lettre de Bougival. Le FLNKS le rejette, l'UNI veut le modifier et Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien jouent les troisièmes voies en réclamant la présence du FLNKS autour de la table pour modifier le texte. On s'interroge sur la valeur que ces élus accordent à leur signature d'un document qui les engageait à défendre le texte en l'état. Mais les facilitateurs n'ont pas été aidés non plus par le Parti Socialiste, qui leur a brutalement coupé l'herbe sous les pieds en demandant au gouvernement de suspendre la consultation anticipée sur l'accord de Bougival. Le débat s'est en effet déplacé. On ne discute même plus du fond de l'accord, mais de l'inversion de calendrier. Et le Parti Socialiste emboîte le pas au FLNKS pour dénoncer la décision du gouvernement de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de consulter les Calédoniens avant que le Parlement ne se prononce et ne modifie la Constitution. Bon, si tout le monde s'en mêle, ça va devenir inextricable, si tant est que ça ne l'est pas déjà. Mais avant même que les facilitateurs ne reprennent l'avion, un peu dépité, voilà que Christian T a débarqué jeudi à Tontouta. Le président du FLNKS, qui reste mis en examen pour vol en bande organisée avec armes, destruction en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits, ne pouvait pas rater le congrès extraordinaire du FLNKS. Il a étreigné en présentiel la fonction à laquelle il a été nommé quand il était incarcéré à Mulhouse. Il a déclaré que le FLNKS doit demeurer ce phare qui éclaire la trajectoire de notre peuple vers la pleine souveraineté. C'est beau comme de l'antique, mais il n'y a décidément rien de neuf dans l'attitude du nouveau FLNKS. Il ne veut parler qu'avec l'État et que des modalités d'accession à la pleine souveraineté. Ça limite les échanges et ça ne fait pas avancer Bougival. La semaine s'est poursuivie avec une lettre du Premier ministre aux élus calédoniens. Ce sont les 5 piliers de Sébastien Lecornu qui propose un plan de relance à hauteur de 264 milliards de francs CFP. Un pacte basé sur la réciprocité des engagements et sur la responsabilité partagée entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Un soutien massif de l'État au territoire, suspendu tout de même à deux conditions. Le vote du budget de l'État et le soutien du Congrès à ce plan de relance. Dans les deux cas, ce n'est pas gagné. On se souvient du refus du pacte nickel par les élus du Congrès sous l'impulsion de Philippe Gomès, qui avait convaincu les élus indépendantistes de ne pas le voter. Au moins cette fois-ci, il ne devrait plus avoir cette influence, puisqu'il ne siégera plus au Congrès. El Magnifico finit sa longue carrière sur une peine d'inéligibilité de 5 ans, dont le Conseil d'État vient de confirmer l'exécution provisoire. Quelle semaine ! Avec des incertitudes angoissantes, des déceptions lourdes, des confirmations et de très très bonnes nouvelles, je vous laisse accoler ces qualificatifs à votre guise aux événements qui ont marqué ces derniers jours.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver sur notre site internet, à réécouter aussi cet après-midi, ce sera après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Le plan de relance de l'État à hauteur de 264 milliards de francs sur 5 ans est-il, selon vous, de nature à relancer la confiance? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Je vous rappelle que ce plan est soumis à l'avis des responsables calédoniens et ce matin, le président du gouvernement, Alcide Ponga, réunissait les différents groupes politiques et les responsables d'institutions, notamment les présidents de province, sur ce projet de pacte de refondation. Il est 11h44, une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie. Nous écouterons notre amant Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025, qui est devenue la première dauphine de Miss France 2026.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
C'était évidemment l'événement hier matin. Miss Nouvelle-Calédonie a terminé deuxième du concours national de Miss France, Michael Juneski.
Juliette Collet s'est hissée jusqu'au duel final qui aura donc vu le sacre de Miss Tahiti, Inaupoko Devez. Miss Nouvelle-Calédonie, première dauphine de Miss France, nous a fait part aujourd'hui de sa réaction et déjà de sa grande surprise d'avoir été aussi loin dans le concours.
Mon but, je visais déjà le top 12. Je n'aurais jamais imaginé faire partie de toutes ces femmes qui ont été retenues. Et lorsque j'ai été retenue, il a fallu faire le discours. Et j'ai rien dit de ce que j'avais écrit parce que trou noir, je ne me souvenais pas du tout. Donc j'ai improvisé. Par chance, je suis rentrée dans les 1 minute top chrono de Jean-Pierre Foucault. Je sais que j'ai réussi à parler de Chandignam et de la Nouvelle-Calédonie et de mon métissage, et donc j'étais très contente. Et par contre, au top 5, j'ai été appelée en dernière et je n'y croyais plus du tout. Une fois qu'on a appelé la Guadeloupe et Tahiti, je me suis dit non, ils vont pas mettre 3 dom-toms dans le top 5, c'est pas possible. J'étais, je crois, la dernière à être appelée. Qu'est-ce que j'étais contente, j'y croyais pas, et toutes mes copines derrière qui étaient trop contentes pour moi. Et quand ils ont énuméré après les dauphines une par une, et là je me suis rendu compte que les deux dernières c'était les deux seules Miss du Pacifique. Mais alors là je pouvais pas rêver mieux, et je pense que tous les Iliens diront la même chose, on ne pouvait pas rêver mieux, on était trop contentes.
Et pour Juliette Collet, c'est une fierté de voir les deux représentantes du Pacifique terminer donc en finale de ce concours Miss France.
Je savais que Ina était favorite depuis le début, même avant sa sélection, même avant son élection, lorsqu'elle était encore candidate, elle faisait déjà partie des favorites pour Miss France. Moi, venant de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est jamais qualifiée, qui ne connaît pas le monde des Miss, qui sort de mon petit village, je ne pensais pas être à la même hauteur. Et lorsque les résultats sont sortis et j'ai vu que j'avais la majorité des votes du jury, j'étais tellement heureuse. Je pense que je peux être fière et je suis. Mais merci beaucoup à toute la Nouvelle-Calédonie de m'avoir portée, parce que je suis trop fière de représenter la Nouvelle-Calédonie et ça apporte aussi une autre image. On entend parler enfin de la Nouvelle-Calédonie pour les paillettes, pour le donner le sourire tout simplement. Donc je suis trop contente. Je suis trop, 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 trop fière d'avoir pu porter la Nouvelle-Calédonie jusqu'ici. Rien que de fouler le plateau de la scène Miss France et de représenter mon pays, c'était une fierté, mais d'avoir fait rêver les Calédoniens et fait parler de la Nouvelle-Calédonie à cette échelle nationale, c'était une vraie fierté. Oui.
Voilà, une soirée exceptionnelle donc pour notre Miss Nouvelle-Calédonie, Juliette Collet. On rappelle qu'une seule Calédonienne était allée aussi loin dans l'élection. C'était en 1978. Pascal Ataurua avait été sacré Miss France.
Au chapitre des faits divers, 3 plantations de cannabis détruites par les gendarmes à Wailou. 5220 pieds ont été arrachés ces derniers jours. 2 camions ont évacué les plantes, tandis que 2 unités de gendarmerie ont sécurisé l'opération. Les Calédoniens appelés à se mobiliser ce week-end lors de la 30e édition du Téléthon. Nombreux sont ceux qui ont appelé le 36-37 pour faire une promesse de don et venir en aide aux personnes souffrant de maladies neuromusculaires. Hier après-midi, les bénévoles annonçaient déjà 2 180 000 francs de dons, un montant qui se rapproche de celui de 2023, nous a dit Robert Racapé, le responsable du Téléthon en Calédonie.
Nous sommes en retard de 90 promesses par rapport à 2023, avec presque 2 millions de moins qu'en 2023. On comprend très bien la situation économique est difficile en Nouvelle-Calédonie, mais les gens ont quand même répondu pour la 30e édition du Téléthon. Et pour ceux qui auraient oublié de faire un don au 36-37, ils peuvent toujours se manifester en faisant un chèque au nom de l'AFM Téléthon et l'envoyer à la BP 1774 98 845 Nouméa Cevex. Donc on en est là aujourd'hui. On est quand même satisfait et on veut remercier tous les donateurs qui ont participé à cette 30e édition.
Des propos recueillis par Kelinda Boicou. Biscochoc, devenu les cacaos du Pacifique, réussit sa mutation. 5 ans après le lancement d'un nouveau projet, la nouvelle usine qui est située à Nouville entrera en production début janvier. L'entreprise bien connue des Calédoniens a grandement souffert lors des émeutes de mai 2024, mais la marque a su se réinventer. plus qu'un changement de nom, c'est aussi un changement de stratégie qui a été opéré, avec notamment un meilleur contrôle de la chaîne de production, nous a dit Dominique Lefebvre, le président des Cacaos du Pacifique, qui était ce matin notre invité.
Avant, nous étions un peu comme tous les chocolatiers. En fait, nous achetions des couvertures de chocolat. En 2017, j'ai changé complètement de stratégie. On a repris une plantation au Vanuatu. Et à partir de là, on a validé tout notre process de fermentation et de séchage avec le plus grand chocolatier français. Et donc, aujourd'hui, nous sommes complètement autonomes, les Cacaos du Pacifique, parce que tout simplement, on se source au Vanuatu, bien sûr, mais aussi en PNG, Papouasie-Nouvelle-Guinée, aussi au Salomon et aussi à Fidji, où nous avons un gros projet avec le gouvernement fidjien. Et puis aussi ici, sur la côte Est, où nous avons pas mal de petits planteurs qui maintenant nous contactent. Et le but, c'est de faire une très belle origine ici.
À moyen terme, l'export représentera 70% de la production des cacaos du Pacifique, nous a dit Dominique Lefebvre. Un marché tourné essentiellement vers l'Asie et donc avec des produits adaptés à la demande.
On était essentiellement tourné vers le retail, c'est-à-dire la vente de tablettes, de petits bonbons de chocolat. Et maintenant, on se tourne vers le food service, c'est-à-dire qu'on s'adresse directement aux pâtissiers, chocolatiers, etc. Et particulièrement à l'export. Et quand je vais aussi bien en Corée, au Japon, à Hong Kong ou à Shanghai, les gens aiment le Pacifique. On a des clients chinois particulièrement qui veulent des tablettes de 30 grammes, donc on a une ligne pour la tablette de 30 grammes. Un asiatique, quand il a touché avec les mains la tablette, il la partage plus, donc il faut faire des tout petits grammages. Et donc le but, c'est de vendre 5 petites tablettes de 30 grammes et d'offrir une gamme complète. Et puis aussi, nous n'avons pas ces difficultés de transport que toute l'Asie a connues avec le Covid et la guerre en Ukraine.
Dominique Lefebvre, le président des Cacaos du Pacifique, il était notre invité ce matin. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
C'est vraiment le moment de venir participer à cette opération au cœur de Noël. Il reste encore 15 jours, vous le savez, pour amener des cadeaux à la radio. Cadeaux qui seront distribués aux enfants des familles qui rencontrent des difficultés et qui sont suivis par nos partenaires, la Croix-Rouge, le Secours catholique, la Société Saint-Vincent-de-Paul, avec aussi le secours de la Table ronde française qui nous aide. Alors venez, comme vous l'avez fait tout ce week-end, passez à la radio, déposez des cadeaux. Il y a encore d'énormes besoins pour rendre le plus d'enfants heureux possible pour cette fête de Noël. Vous pouvez déposer vos cadeaux à la radio tous les jours de 7h à 19h et vous pouvez aussi le faire au magasin Petit Dôme situé route de Lanzvata, qui est partenaire de cette opération depuis 12 ans maintenant. On compte sur vous, ce n'est pas fini, il reste encore 15 jours. Vous pouvez donc venir nous voir, votre générosité fera forcément des heureux. Il est 11h52, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Comme chaque année, la ville de Nouméa invite tous les Nouméens à vérifier leur inscription sur les listes électorales et à mettre à jour l'adresse de leur domicile avant le 31 décembre 2025. Dans un premier temps, vérifiez votre inscription sur le site internet www.electeur-nc.fr. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou que vous êtes nouveau résident de la commune, faites les démarches d'inscription auprès du service des élections à l'hôtel de ville. Pour rappel, les jeunes majeurs sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. Si vous avez changé de quartier au sein de la commune, signalez ce changement au service des élections à l'hôtel de ville de Nouméa. Votre adresse de domicile détermine le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. Retrouvez toutes les informations pratiques et la marche à suivre dès maintenant sur le site www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15. Ces démarches sont nécessaires pour participer aux scrutins organisés en 2026. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025, mais n'attendez pas le dernier moment. Ceci est un message de la ville de Nouméa.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Et avant de développer l'actualité en métropole, cette information pour vous signaler qu'il est conseillé d'éviter le secteur du Congrès cet après-midi aux alentours de 14h en raison de la séance qui s'y tient et d'une manifestation interdite qui a été prévue devant le Congrès. Des forces de l'ordre sont déployées autour du Congrès pour assurer la sécurité. Donc il est conseillé d'éviter cette zone qui doit doit être plutôt chargé en termes de circulation. On en vient donc à l'actualité en métropole. La police blesse et tue, non à l'état policier ou encore on dégage le RN. Ce sont quelques-uns des slogans qui se sont affichés à Lyon sur certains bâtiments publics lors de la fameuse fête des Lumières, notamment sur la façade du musée des Beaux-Arts. À l'origine de ce détournement qui a fait beaucoup réagir, le groupe d'ultra-gauche écologiste Les Soulèvements de la Terre, une action qui provoque de nombreuses réactions politiques et qui suscite aussi de l'émotion parmi les forces de police. Alain Barberis est le secrétaire régional Auvergne-Rhône-Alpes du syndicat Alliance Police.
Ce sont des organisations très bien organisées mais radicalisées qui sont là uniquement pour semer le chaos et qui sont anti-État. C'est à nos politiques de prendre toutes leurs responsabilités, mais bien évidemment, il faut que derrière la justice soutienne les policiers, les forces de l'ordre au quotidien de leur mission.
Une enquête a évidemment été ouverte et la présence policière renforcée pour les jours qui viennent. En politique, l'appel du patron des LR aux députés de son parti, Bruno Retailleau, les appelle à ne pas voter le budget de la sécurité sociale. Il qualifie le texte de hold-up social, fiscal et démocratique et dénonce la hausse de la CSG et la suspension de la réforme des retraites inclus dans le texte. C'est décidément une très très mauvaise série pour le musée du Louvre. Après le vol spectaculaire des bijoux de la couronne, c'est cette fois-ci une inondation qui remet sur le devant de la scène les questions de sécurité du musée. Inondation qui a eu lieu dans la bibliothèque du département des Antiquités égyptiennes. Laura Legault pour Europe 1.
Environ 400 ouvrages ont été détériorés, des revues anciennes reliées. Certaines reliures sont d'ailleurs irrécupérables. C'est une défaillance de tuyauterie qui a provoqué l'inondation. Un incident qui aurait pu être évité selon Didier Rickner, historien et directeur de la Tribune de l'Art.
Tout cela a été signalé, tout cela a été connu. Le fait que ce n'était pas dans des conditions de conservation optimum, c'était connu. Et puis, les personnes qui travaillaient là ont prévenu depuis longtemps en disant « il faut au moins vous réparer les tuyauteries parce qu'il y a des fuites, parce que ça peut être plus grave ».
Des canalisations vétustes, des ouvrages mal protégés. Les signalements ont été nombreux, mais la direction du musée n'a pas réagi.
Non seulement le Louvre n'a pas fait ce qu'il fallait pour déplacer ou du moins pour restaurer et agrandir ses bibliothèques, mais il n'a même pas fait le minimum qui aurait été de réparer les tuyauteries défectueuses ou de déplacer les livres.
Et l'historien insiste, cette inondation aurait pu tourner au drame. L'eau s'est infiltrée à l'étage inférieur où se trouve un tableau électrique. Un incendie aurait donc pu se déclencher et provoquer des dégâts bien plus importants.
Un mot de l'actualité à l'étranger. Cela fait un an qu'Ahmed al-Sharaa a pris le pouvoir en Syrie. Cet ancien djihadiste est arrivé aux affaires après la chute de Bachar al-Assad et 50 ans de régime dictatorial. Il avait alors promis union et stabilité. Où en est-on ? Écoutez le chercheur spécialiste de la Syrie, Fabrice Balanche.
On a quelqu'un qui a un double visage. Sur le plan extérieur, on peut dire qu'Ahmed al-Sharaa a un bilan extrêmement positif, puisqu'il a été reçu au mois de mai par Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU en septembre. Mais il reste Abu Mohammed al-Jolani à l'intérieur, c'est-à-dire il reste ce djihadiste qui a passé 20 ans dans les rangs d'Al-Qaïda et qui est extrêmement autoritaire. On a peur en Syrie de ce nouveau régime. Les gens disparaissent, les gens sont arrêtés et sont mis en prison. On se dirige tout droit vers une république islamique autoritaire avec l'élimination progressive des minorités.
Le chercheur Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie, des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1.